Là, celles et ceux qui ont lu la lettre de nouvelles vendredi ont pu voir cette question, est-ce qu'on est prêt à travailler gratuitement? Alors j'imagine quand Rémi a lu ça, il a dit je vais mettre l'offrande avant, en fonction de ce qu'il nous dit, comme ça, au moins on est sûr. Je vous repose la question et puis je vous demanderai simplement de lever la main, ceux qui seraient prêts à travailler gratuitement. Ah, quand même. Je suis étonné qu'il y en ait eu autant, mais. Mais voilà, c'était 50-50, à peu près 50-50. Et puis, du coup, ma prédication va s'adresser aux 50% qui n'ont pas levé la main ce matin. Parce que le texte que nous allons parler aujourd'hui parle justement de travailler gratuitement. Alors, j'espérais qu'il tomberait sur quelqu'un d'autre. Nous allons poursuivre dans l'épître aux Corinthiens. Je suis un petit peu gêné de vous parler de ce thème-là. J'aurais préféré que quelqu'un d'autre s'en charge. Il est question de rémunération de ceux qui annoncent l'évangile, de ceux qui prêchent. Donc, je ne suis pas forcément le mieux placé pour aborder ce thème ici. Et puis, si je vous dévoile la fin de notre texte biblique, c'est que Paul réclame d'être rémunéré pour son travail. Donc, voyez-vous, je suis doublement embêté de parler ça, de ça devant vous. Toute la semaine, je me suis demandé si je devais demander au groupe employeur, au conseil, s'il devait arrêter de me rémunérer ou pas. Finalement, je me suis dit, non, Paul, il n'était pas marié, il n'avait aucun risque de dormir sur le balcon. Donc, je ne vais pas demander de travailler gratuitement pour obéir à ce que la Bible nous dit. Désolé Philippe, notre financier, mais voilà. Non, 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 t'as pas reçu de demande, non. Non, 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 j'ai vu ma femme, puis je me dis non, c'est bon, je vais continuer avec un salaire. Mais au-delà de l'aspect financier de ce matin, nous verrons aussi comment Paul peut nous interpeller sur le sujet. Et d'entrée de jeu, je vous invite à lire dans 1 Corinthiens 9, les 14 premiers versets, où Paul nous dit « Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes l'empreinte qui authentifie mon service en tant qu'apôtre dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres, les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien sommes-nous les seuls, Barnabas et moi, à ne pas avoir le droit de ne pas travailler? Qui donc sert dans une armée et a ses propres frais? Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui prend soin du troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Est-ce purement d'un point de vue humain que je dis cela? La loi ne dit-elle pas aussi? En effet, il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain. » Dieu s'inquiète-t-il des bœufs, ou bien est-ce principalement à cause de nous qu'il parle? Oui, c'est à cause de nous que cela a été écrit. Car celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui bat le blé doit le faire avec l'espoir de recevoir sa part. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce trop si nous récoltons une part de vos biens matériels? Si d'autres exercent ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas recouru à ce droit, au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par l'autel? De même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Est-ce que je peux te demander de mettre le PowerPoint qui est sur le bureau rose blanche? Merci. Paul semble utiliser 14 versets pour se plaindre. À de nombreuses reprises, Paul semble réclamer un revenu pour son travail d'apôtre. J'ai rarement lu sous la plume de Paul une telle argumentation, avec une telle rhétorique. Il y a un grand nombre d'arguments pour souligner qu'il doit être rémunéré. Paul commence avec 4 questions. Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas apôtre ? N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur ? Et n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ? 4 questions auxquelles il convient de répondre par oui. Oui, Paul est libre en Christ. Oui, il a été reconnu comme apôtre parmi les apôtres. Oui, sa conversion indique qu'il a rencontré Christ. Et oui, il a implanté l'église de Corinthe. 4 questions auxquelles il faut répondre par oui. Et après, il va développer son argumentaire. Dans les 6 premiers versets, le point de vue de Paul est très clair. Si les autres apôtres, y compris Pierre et les frères du Seigneur, sont pris en charge financièrement par les églises, il affirme que Barnabé et lui ont également ce droit. Petit exercice de mémoire, qui sont les frères du Seigneur ? Jacques, Jude, Jacques, Jude, il y en a encore 2. Matthieu 13, 55, il y a la réponse. Jacques, Jude, Joseph, Simon. Voilà. Pour souligner son droit à être soutenu financièrement pour son ministère, Paul va utiliser 9 arguments et illustrations. 9. Tout d'abord, c'est le droit du soldat. Il commence avec cet exemple militaire. Qui donc sert dans une armée à ses propres frais ? Personne ne le fait. Les guerriers sont indemnisés pour leur service. Ensuite, c'est le droit du vigneron. Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit ? Si vous connaissez un vigneron sur la côte ou le Lavau qui fait ça, j'aimerais bien le connaître. Personne. Le but de la plantation, du jardin, de la vigne, c'est de jouir du fruit qu'il produit. Ensuite, Paul arrive avec ce 3e argument, c'est le droit du berger. Qui prend soin d'un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau ? Personne. Le travail au sein du troupeau doit être récompensé. C'est le droit du bœuf. Paul descend même au niveau animalier. Il dit même c'est le droit du bœuf de profiter de son labeur. Pendant qu'il travaille, le bœuf peut se nourrir. Et puis là, il donne une citation de la loi de Moïse, du Deutéronome. Il dit « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foulera le grain. » Et il enchaîne avec cette question « Dieu se préoccupe-t-il vraiment des bœufs ?» Alors cette citation-là, à ce moment-là dans l'Épître aux Corinthiens, pose de nombreuses questions. Beaucoup de théologiens se sont interrogés pourquoi Paul cite ce verset au milieu d'une argumentation pour les finances. Il y en avait peut-être d'autres qui étaient plus appropriés, mais Paul choisit celui-là. Paul semble dire que Dieu se soucie des animaux. Quand Dieu a donné cette loi à Moïse, Dieu se soucie des animaux. Ensuite, est-ce que c'est une citation interprétée de manière littérale ou symbolique ? Paul ne semble pas nier la littéralité de ce passage. Le bœuf doit être autorisé à manger quand il travaille. Et il faut savoir que quand Paul cite, je vous donne une petite astuce, quand vous lisez les lettres de Paul, puis quand vous voyez une citation de l'Ancien Testament chez Paul, le réflexe en général, c'est de voir le contexte plus large. Souvent, la citation qu'il donne ne nous parle pas tellement, ne nous dit pas grand-chose. Et Paul était juif, et puis il avait cette pensée juive de citer un petit bout de verset pour se référer à un chapitre entier. Jésus l'a aussi pratiqué comme ça. Donc ce verset qui paraît énigmatique, si on applique le schéma de pensée de Paul, il faut se référer au chapitre entier, donc de Deutéronome 25. Et puis le contexte de ce chapitre-là, c'est Dieu parle de la manière dont les hommes et les femmes sont traités. Il s'agit en particulier de l'attention portée à certaines personnes. Le passage de Deutéronome 25 parle d'abord de la nécessité de payer au travailleur ce qui lui est dû. Alors pourquoi ce verset précis, ça, je ne sais pas, je n'ai pas assez creusé la tradition rabbinique. Mais toujours est-il que Paul se réfère au passage entier. Il utilise ce texte pour argumenter que c'est nécessaire de payer aux travailleurs ce qui leur est dû. En faisant ça, peut-être Paul fait un raisonnement plus large. Il part du plus petit, du bœuf, jusqu'à l'homme. Et même jusqu'à son apostolat. Ceux qui travaillent, quels qu'ils soient, qu'ils soient bœufs ou apôtres, doivent récolter le fruit de leur travail. Si c'est vrai pour un bœuf, c'est forcément vrai pour un apôtre, n'est-ce pas? Ensuite, Paul surenchérit avec d'autres arguments. Le droit du laboureur. Celui qui laboure doit labourer dans l'espérance. L'agriculteur laboure un champ dans l'attente qu'il lui fournira de la nourriture en temps voulu pour sa famille. C'est aussi le droit du moissonneur. Le moissonneur travaille dans le champ avec l'espoir qu'il y aura du grain à ramener à la maison à la fin de la journée. C'est le droit des serviteurs de Dieu. Paul fait maintenant une application spirituelle et précise aux Corinthiens. Si nous avons semé pour vous des biens spirituels, est-ce trop si nous récoltons une part de vos biens matériels? Puis il dit, mais nous n'avons pas recouru à ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Il a fallu attendre le verset 12 pour que Paul commence à parler de l'évangile. 14 versets pour argumenter qu'il doit être rémunéré, et seulement au verset 12, il mentionne l'évangile. Et ce mot évangile va ensuite figurer 7 fois jusqu'au verset 18. L'évangile est donc au cœur de l'argumentation de Paul. L'évangile avant tout. L'évangile avant tout n'était pas seulement un simple slogan pour Paul, c'était la lumière qui guidait son ministère. C'était le point central de son ministère. Et finalement, Paul rajoute une couche. Après avoir dit non, on n'a pas recouru à ce droit, il dit mais on aurait quand même pu le faire lorsqu'il cite les personnes engagées dans le service au temple dans l'Ancien Testament, qui étaient prises en charge pour leur travail. On trouve cela dans le livre du Lévitique. Et le cœur de l'argumentation de Paul, c'est au verset 14, c'est le droit de ceux qui servent la parole. Voilà le point culminant de son argumentation. Il s'appuie sur Jésus lui-même. De même, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre par l'Évangile. Paul aurait pu demander aux Corinthiens un soutien financier. Toute la loi de l'Ancien Testament allait dans ce sens-là. Les paroles de Jésus allaient dans ce sens-là. Tout lui donnait raison. Cependant, il a renoncé à ce droit. Il renonce volontairement à son droit d'être entretenu financièrement par l'Église de Corinthe. Et il poursuit au verset 15 à 18. Quant à moi, je n'ai eu recours à aucun de ces droits. Et je n'écris pas cela pour qu'il me soit accordé, car j'aimerais mieux mourir plutôt que de me laisser enlever ce sujet de fierté. Si j'annonce l'Évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. C'est radical, hein ? Qui serait capable de dire ça ? Si je fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile de Christ que j'annonce sans faire usage de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Le souci de Paul n'est pas tant d'avoir un salaire, d'être rémunéré, d'être entretenu. Son souci principal, c'est d'annoncer l'Évangile. Il ne désire pas être une pierre d'achoppement. Il ne veut pas que son revenu soit question de débat dans l'Église, soit source de division. Il renonce à ce privilège pour se concentrer sur l'annonce de l'Évangile. C'est aussi ce qu'on a vu la semaine dernière au travers d'un Corinthiens 8 avec Mathieu Varidel. Pour ne pas être une pierre d'achoppement pour l'Église de Corinthe, Paul renonce volontairement à son droit. Alors que la loi et Jésus étaient d'accord avec lui, il renonce volontairement à son droit pour que si on doit lui reprocher quelque chose, ce ne soit pas dans son comportement, mais le seul reproche qu'il acceptera, ce sera l'Évangile. Si on doit lui reprocher quelque chose, c'est l'Évangile. Puis à ce moment-là, ce n'est plus à Paul qu'on reproche quelque chose, mais c'est l'Évangile directement qui est refusé. En renonçant à ce privilège, Paul est en train de dire « Le message que j'annonce, il ne doit pas être altéré par quelque autre demande. » C'est l'Évangile accepté ou pas. L'exemple de Paul est parlant. Dans sa relation avec les Corinthiens, le seul obstacle qu'il peut entrevoir, c'est l'Évangile. Il n'envisage aucun autre et il est prêt à renoncer à ses droits pour que seulement, qu'il y ait seulement cet obstacle de l'Évangile. Paul se démarque ainsi de tous ceux dont la motivation de prêcher est l'argent. Pour lui, la proclamation fidèle de l'Évangile est une question de vie ou de mort. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Alors, qu'est-ce que l'Évangile ? On en parle beaucoup cette fois dans ces derniers versets. Qu'est-ce que l'Évangile ? Je vous laisse la parole, très courtement. Qu'est-ce que l'Évangile ? Une bonne nouvelle. Merci, Laszlo. L'Évangile, c'est Jésus-Christ mort pour nos péchés, qui est ressuscité d'entre les morts selon les Écritures. Et tous ceux qui se repentent et croient en lui seront sauvés, non ? On est d'accord ? Oui ? Oui, voilà, amen ! Ok, on va le refaire peut-être un peu plus à l'américaine, si vous voulez. L'Évangile, c'est Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité d'entre les morts selon les Écritures, et tous ceux qui se repentent et croient en lui seront sauvés. Amen. Voilà, j'aime l'enthousiasme. Alors cette définition est bien connue des chrétiens, et peut-être on peut s'en lasser un petit peu. Peut-être pour certains, c'est une répétition inutile de dire ce que c'est l'Évangile, mais je crois qu'on court le danger de relativiser aussi l'Évangile. Dans notre société, il y a ce danger de relativiser, de résumer l'Évangile à certaines valeurs. On ne souhaite pas choquer les autres, on veut être abordable. J'ai pas envie que cet aspect de l'Évangile choque cette personne. Alors comment est-ce que je peux lui présenter pour qu'il accepte et puis on viendra à ce point plus tard ? Alors c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire de contextualisation. Mais parfois, on a peut-être tendance à relativiser certains points de l'Évangile. Et Paul, en parlant de l'Évangile, il fait une distinction. Et c'est important de la maintenir. Il distingue l'Évangile lui-même, ce message de la bonne nouvelle, des implications de l'Évangile. Et notre société nous pousse à voir souvent les implications de l'Évangile sur des questions telles que le droit à la vie, l'euthanasie, le genre, la justice sociale. On cherche à voir les implications de l'Évangile, puis à donner ça comme argument, plutôt que l'Évangile lui-même. Et l'Évangile a quelque chose de pertinent à dire sur ces questions. Mais la réponse que nous pouvons donner, c'est l'Évangile lui-même. L'Évangile lui-même, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, d'être sauvé si on croit en lui. L'Évangile va influencer notre manière de voir ces questions de société. Ce n'est pas juste des arguments à donner. C'est le ministère que certains ont et certains politiciens sont des fois en lutte aussi. Ce n'est pas évident, il y a des tensions entre les débats qu'ils doivent mener. Ils ne peuvent pas annoncer l'Évangile comme ça frontalement. Donc il y a un travail difficile qui peut être fait. Mais en tant que chrétiens, nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle. Nous ne sommes pas simplement porteurs de bonnes valeurs, nous sommes porteurs de la bonne nouvelle. Pour conclure ce message, je vous relirai le verset 18, ce qui me semble approprié, où Paul dit « Quelle est donc ma récompense ?» C'est d'offrir gratuitement l'évangile de Christ que j'annonce sans faire usage de mon droit de prédicateur de l'évangile. Quelle est votre récompense à vous? Quelle est votre récompense? Paul a renoncé à ses privilèges financiers pour pouvoir effectuer son travail. Il a renoncé à ses privilèges financiers pour annoncer l'évangile. Alors à nous d'en faire de même. Amen et bon dimanche. Ça aurait été rude, hein, Rémi? Ça aurait été rude. L'exemple de Paul n'est pas forcément à suivre à la lettre. Mais on a peut-être des choses dans nos vies auxquelles nous devons renoncer pour le bien de l'Évangile, pour ne pas être une pierre d'achoppement envers les gens de nos familles, nos collègues de travail, nos relations. Qu'est-ce qu'on doit renoncer dans nos vies pour ne pas être cette pierre d'achoppement? Si je pose la question différemment, en quoi mes attentes, mon comportement ou certains privilèges pourraient être un obstacle à mon témoignage de l'Évangile? Est-ce que je suis prêt à renoncer à ces choses-là? Comme Paul, je crois que nous avons ce même appel. Si jamais il doit y avoir une pierre d'achoppement qui empêche une personne perdue de croire à l'évangile de Jésus, que ce soit l'évangile et rien d'autre. C'est un message radical, mais c'est un bel exemple à suivre aussi, de ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres, qui pourrait donner une mauvaise compréhension, qui pourrait altérer ce message de l'évangile. Alors, suivre Christ, puis annoncer l'évangile, ne nous demande pas de choisir la solution la plus facile. Il y a une part de renoncement aussi derrière. Et pour poursuivre cette réflexion, je vous propose 5 questions. Vous pouvez prendre avec vous, on parlait dans les cellules de prière, ou à d'autres moments. Pourquoi Paul considère-t-il que c'est une récompense de prêcher l'Évangile plutôt que d'attendre ses droits? Deuxième question, comment décide-t-on qu'il est nécessaire de renoncer à un droit ou un privilège? Comment est-ce qu'on prend cette décision? Quels sont les critères? Ensuite, une question qui nous ramène à nous-mêmes, c'est comment l'orgueil nous empêchera-t-il de renoncer à nos droits pour servir les autres? Et si on regarde à Jésus, quels sont les privilèges et ces droits auxquels il a renoncé pour nous servir, qu'est-ce que ça lui a coûté et quelle a été sa récompense à lui? Dernière question, en quoi mes attentes, mon comportement ou certains privilèges pourraient être un obstacle à l'évangile, dans mon travail, dans ma famille? Est-ce que je suis prêt à y renoncer? Voilà ce que je peux tirer de ce texte d'1 Corinthiens 9. Toute la mise en pratique maintenant est à nous de jouer. Je vous invite à prier.